C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Ah, sujet de hockey ce matin pour commencer avec nos commissaires. Alors, on sait qu'il pourrait peut-être y avoir 5 matchs des sénateurs d'Ottawa à Québec. Le gouvernement Legault a confirmé, avec son ministre des Nordiques, M. Girard, qu'on souhaite attirer donc cette équipe à Québec. Après ça, les sénateurs ont dit non, non, pas vraiment, mais peut-être. Alors, là, M. Saint-Pierre Plamondon s'est insurgé de la chose. Je lui ai parlé tantôt. Il est un peu contradictoire parce qu'il est outré, mais en même temps, il va y aller.
Ah, vois-tu?
Tu vois, c'est que... Alors, je lui ai demandé, est-ce que c'est parce que c'est un club canadien? Non, c'est parce que les Nordiques méritent plus que ça, puis bon. Alors, Luc, a-t-il raison d'être outré?
Oui, c'est sûr que le titre est mal sorti, hein? C'était quoi déjà, le titre?
Pardon, pas dans le club des mal cités, là?
Non, mais le titre, c'est vrai que... J'ai pas que mal cité, mais le titre, t'as pas flatteur.
Je vais le retrouver, le titre, là. Je l'ai pas devant moi, mais... Ouais,
genre... on est
symbolique, nauséabond.
Ah, voilà. Symbolique, voilà. Nauséabond. Voilà. Écoute, oui. C'est vrai que c'est pas fort. L'affaire, c'est que moi, je suis d'accord avec lui sur le fond. Le fond, c'est que Québec mérite tellement mieux que ça. Ouais, écoute, 4 parties, pourquoi pas. Tu sais, comme ils disent au hockey, dans le sport professionnel maintenant, le produit de qualité, c'est un produit de qualité. C'est plus une game, c'est un produit. Fait que oui, les gens vont y aller, puis ça va remplir un peu le stade, puis let's go. Mais... C'est des miettes, c'est des miettes. Québec mérite tellement mieux que ça. Puis on réalise pas combien la Ligue nationale de hockey est différente de toutes les ligues à travers le monde dans son refus d'offrir à Québec une équipe de hockey. Premièrement, j'ai regardé hier, là, j'ai fait des petits calculs, des analogies. La NFL, National Football League, deux équipes qui sont vraiment connues, vraiment fortes, puis qui sont dans des villes beaucoup plus petites que Québec. Les Chiefs de Kansas City, qui ont gagné, ou qui ont joué, ils ont gagné la Super Bowl il y a 2 ans. Les Bengals de Cincinnati, une institution, c'est une ville de 300 000 habitants. 300 000 habitants, Cincinnati. Québec, 600 000. Et au-delà de 600 000. La NBA, Milwaukee, 500 000 habitants. Cleveland, 350 000 à peu près. C'est des petites villes. Puis c'est des grosses équipes. Fait que le système pyramidal européen, ça, c'est le meilleur exemple que je peux trouver. Le système pyramidal européen, là, c'est que tu as la première ligue, deuxième ligue, puis après ça, ligue nationale. La première ligue, c'est une vingtaine d'équipes, par exemple en France ou en Angleterre. Et après ça, la ligue numéro 2. La ligue 2, là, c'est des équipes des beaucoup plus petites villes qui jouent. Celle qui gagne le championnat de la ligue 2 a des chances d'aller dans la ligue 1 l'année suivante. Donc, il y a un système pyramidal qui t'amène vers le haut. Donc, quand tu es exclu, tu n'es pas exclu. Tu as encore une chance. Il y a juste le maudit de la Ligue nationale de hockey où on exclut une équipe, une ville, la seule ville du Canada, d'ailleurs, de cette taille-là, extrêmement... avec une culture extrême du hockey, un amour, une passion du hockey, un gros zéro pour la Ligue nationale de hockey.
Allez, gars, sortez votre chandail des Nordiques.
Oui,
parce
madame!
Que moi, qui est sceptique quant au retour des Nordiques, je crois qu'on pourrait assister à des jours heureux pour la ville de Québec. Je dis ça parce que dans la déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a deux nouvelles. Premièrement, il y a sa déclaration comme telle, qui va probablement passer à l'histoire. Il y a de ces pièces d'anthologie en politique hein, qui restent et qui, en fait, des phrases, des déclarations qui deviennent des pièces d'anthologie. Une symbolique nauséabonde. Et moi, écoute, j'étais assise, je suis tombée en bas de ma chaise. Je n'en revenais tout simplement pas. Je savais que le PQ était désespéré, mais à ce point-là, je me disais non, ça ne se peut pas. Et je me suis dit, ce qu'il fait dans l'humour, où il est sérieux, M. Saint-Pierre Plamondon, il semblerait qu'il est sérieux. En fait, lorsque je l'ai entendu, je me suis dit, dans ma tête, là, ça sonnait comme nationalisme d'un autre siècle. Tu sais, rétrograde, les Anglais qui viennent jouer à Québec alors qu'on veut une équipe des Nordiques. Tu sais, ça faisait honnêtement pas très sérieux. Mais au-delà de ça, l'autre nouvelle, selon moi, qui est la bonne nouvelle, notre ministre des Nordiques est peut-être plus actif qu'on le pense, hein, peut-être plus actif qu'on le croit. Puis ce serait intéressant de savoir ce qu'il sait qu'on ne sait pas et qu'on aimerait savoir. Parce que l'idée de voir les sénateurs venir jouer 5 matchs, peut-être à Québec, tu l'as dit, Paul, peut-être à Québec cet automne, c'est peut-être une façon pour la LNH et Gary Bettman de tester le marché de Québec. Sachant que le propriétaire des sénateurs est décédé, la rumeur qui circule, c'est que ses filles sont plus ou moins intéressées à reprendre le flambeau. Bon, la ville d'Ottawa n'est pas certaine qu'on va leur construire un nouvel amphithéâtre. Alors là, semblerait, en fait, on sent que les planètes commencent à être alignées pour le retour d'une équipe de la LNH à Québec. Et ce serait scandaleux, mettons, on est dans l'hypothétique, là, de savoir qu'une équipe canadienne pourrait se retrouver en sol américain si jamais les Sénateurs étaient vendus.
Oui, absolument.
Puis, excuse-moi rapidement, sur les Nordiques, il n'y a pas de débat au Québec sur la pertinence pour Québec de recevoir une équipe de la Ligue nationale. Le débat, il est sur une participation éventuelle du gouvernement du Québec, des deniers des contribuables.
Là, j'espère qu'il n'y a pas une scène là-dedans. Là.
Ben voilà, parce
j'espère que Québec...
Ben, on a mis pas mal d'argent dans le building, dans comme on dit. Là. Ouais.
D'ailleurs, hein, quelle gaffe rétroactive, parce que les Nordiques ont été vendus 75 millions. À l'époque où ils ont été vendus, au but, essayer de faire construire un auditorium, il n'arrivait pas à intéresser des hommes d'affaires à construire un auditorium, puis encore moins le gouvernement du Québec. Fait qu'il se débarrasse de l'équipe à 75 millions. Maintenant, l'équipe vaut 750 millions, puis on a construit un auditorium, pas d'équipe dedans. Tu peux pas avoir plus mauvais scénario que ça, là.
Ben, c'est-à-dire que c'est pas le scénario qui était souhaité au départ.
Non, pas souhaité. Hein.
Mais moi, j'ai fait partie d'un gouvernement qui a dit oui à l'investissement de 200 millions dans le stand Vidéotron. Puis ça nous prenait ça à Québec. Là. Avez-vous vu le Colisée Pepsi, là? Tu tiens pas des matchs dans le Colisée Pepsi. Comment?
C'était sympathique.
C'est sympathique. L'autre chose sur Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est quand même assez incroyable qu'il ait qualifié la venue éventuelle des sénateurs d'Ottawa de symbolique nauséabonde, sachant que le défenseur, un des défenseurs vedettes de la LNH, est un beauceron. Il joue pour les sénateurs. Il s'appelle Thomas Chabot.
Oui, mais c'est quand même du petit change. Là. Il nous envoie... On est là à genoux pour demander 4 games des sénateurs. Tu me dirais que ce serait Rangers. J'aurais dit, oh, OK, mais les sénateurs...
Mais c'est parce que tu rêves en couleur. Là. Les Rangers, il n'y a pas d'équipe des États-Unis qui vont franchir la frontière
canadienne.
Même
pas pour 4 games. Mais c'est ça que je trouve incroyable.
Même pas pour 4 games, puis même pas pour une éventuelle franchise.
Mais tu regardes, c'est comme quand Toronto vient faire des matchs à Montréal au Stade olympique. Merci beaucoup. Merci. Merci Toronto, c'est le fun. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut.
On appelle ça une étude de marché.
Je pense que c'est plus que moi. Je suis pas sûr que l'étude de marché va fonctionner. Quand les Nordiques sont partis de Québec, plusieurs éléments. D'abord, la ville de Québec les a pas retenus, hein. La population de Québec. Une pétition de 75 000 noms. As-tu vu ce que Winnipeg a fait pour retenir les Jets quand les Jets ont menacé de partir? Ben, d'abord, à Winnipeg, il y a juste ça.
Tu vas pas dire que c'est la faute des gens de Québec.
Non, mais ils se sont pas tant brassés que ça. Il y a pas d'homme d'affaires qui a sorti le flag en disant oui, moi j'y vais, je mets mon cœur, je mets mon argent, je vais là. Non, il y a pas eu. Tu sais, et c'est ça que c'est de ça que le Bateman a peur. Il a peur de par exemple, si l'équipe ça va bien, il gagne, tout va bien, c'est beau. Mais si l'équipe perd, puis le stade est à moitié vide, on fait quoi avec l'équipe? Ben, il va se dire, à l'époque où ça allait mal à Québec, Québec a rien fait pour les retourner.
Non, ben le gouvernement, en fait, si le gouvernement avait levé la main à l'époque, le gouvernement de Jacques Parizeau, c'est un gouvernement du Parti québécois à l'époque, pour dire on va vous aider. En bon français, la game aurait été différente. Aujourd'hui, le contexte n'a rien à voir avec moment
Nathalie,
où les Nordiques ont
disparu. Il faut pas juste que ça dépende du gouvernement.
Ah non, je suis d'accord avec toi, mais la fibre du hockey est encore présente à Québec. J'ai envie de te dire, mon cher Luc, plus que jamais.
Espérons.
Moi, je ne suis pas optimiste comme vous autres.
Non?
Non, je suis convaincu que Bateman, il veut des contrats dans les villes américaines pour les droits de télé. C'est ça qui l'intéresse.
Il y a toujours... Ouais, ici, on a une province.
C'est nous autres, on est un peu... Je ne dirais pas que c'est le dîner de cons, là, mais on est comme sur la tablette.
La voie d'évitement.
Puis là, on dit, ben, c'est pas Seattle, ben, ça peut être Québec. Puis mettez un 4 millions, on va évaluer votre candidat. Tu comprends?
Il gagne du temps, quoi.
Et je suis pas certain que le très sélect club des propriétaires trouve M. Pelladeau chef souverainiste. Tu comprends, là? Propriétaire de Winnipeg, propriétaire d'Ottawa. Je lui ai posé la question, d'ailleurs.
Puis?
Ben, il reconnaît qu'il n'est peut-être pas le plus populaire ou il serait peut-être pas le plus populaire, qu'effectivement, peut-être qu'il y en a que ça dérange. Hypothèse.
Ben là, tu fais quoi si les sénateurs sont à vendre demain matin, Paul? T'envoies pas ça du côté américain, du côté des États-Unis,
non,
là?
Non, mais là, il y avait la famille Desmarais qui avait un projet, les plaines Le Breton, puis faire un nouvel amphithéâtre, puis avec un parc immobilier, un peu comme le stade de baseball au centre-ville. Luc, tu vas repartir, donc on va aller à la pause. Au retour, est-ce qu'on devrait faire ça au Québec, faire passer la vitesse sur certaines routes de 100, maximum bien sûr, là, 100 à 110 km/h? Il y a assez de nids de poules, c'est impensable, mais ça.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, l'Ontario va augmenter la limite de vitesse sur certaines routes de 100 à 110 km heure. La question, est-ce que le gouvernement du Québec devrait faire la même maudite chose? Nathalie.
Bien, c'est tentant de répondre oui, puis je vais répondre non ce matin. Non, pour cinq raisons. En fait, imaginez, on est à 100 km, beaucoup d'automobilistes roulent à 120 sur l'autoroute. Alors, augmenter la limite à 110, probablement qu'on augmenterait notre vitesse à 130. Il y a un enjeu lié à la réduction des gaz à effet de serre. C'est polluant. Plus on roule vite, plus c'est polluant. On fait des efforts continuel et en continu pour faire respecter la limite de vitesse dans les zones scolaires, certains quartiers résidentiels. Alors, pour moi, il y aurait une espèce d'incongruité entre les deux. Les poids lourds, je pense aux poids lourds, là, actuellement, ils sont plafonnés à 105. Je me dis, si on augmente la limite à 110, est-ce que les poids lourds vont rouler à 100, à 110? Probablement qu'augmenter la limite de vitesse, je pense, contribuerait à augmenter le nombre d'accidents sur le réseau routier. On dit souvent que la vitesse est un facteur clé dans le nombre d'accidents. Alors, voilà.
Bien, on change de rôle le matin parce que moi, ça me dérange pas trop.
Quoi? Toi, l'écolo?
Écoute, moi, c'est quand je roule en bas de 120, là, c'est parce que j'ai une crampe dans le pied. Non, mais sérieusement, là. Sérieusement. Bon, premièrement...
Tant que le véhicule est éolien, tu comprends,
ouais, c'est correct. Non, mais quand tu roules en bas de 120 dans la voie de gauche, là, mettons, sur l'autoroute de Laurentide, t'es tous bien de mettre des lunettes fumées tellement que le monde va te flasher leur haute d'en face, tu pourras pas voir. Tout le monde roule à 120 dans la voie de gauche? Tout le monde? À Québec. Quand tu fais Québec-Montréal, Nathalie, tu le vois bien?
Oui, tout
le monde roule à 120?
Oui, oui. Beaucoup de gens, beaucoup d'automobilistes roulent à 120 et même plus.
Oui, c'est ça. Ben, c'est en ligne droite en plus. Bon, je sais qu'il y a plusieurs raisons qui militent contre la hausse de la vitesse. Puis ce sont des raisons, en partie écologiques, mais pas vraiment. C'est-à-dire que oui puis non. Écologie, au niveau de ton portefeuille, c'est, la différence n'est pas minime. Là, c'est 20% d'écart entre rouler à 100 puis 120. 20% sur un parcours Montréal-Québec.
Au prix qu'est l'essence, ça fait différence.
Ça compte. Ouais, ça compte. Quand tu regardes ça au niveau de la planète, donc au niveau de ton portefeuille, oui, au niveau de la planète, c'est pas là que la différence se fait, dans le sens où, oui, tous les petits gestes comptent, d'accord, tous les petits gestes comptent, mais nul n'est parfait non plus. Fait que moi, je suis pas parfait. Et puis, quand tu regardes les gestes qui comptent vraiment, mais c'est changer de véhicule. La différence entre un pick-up et une Corolla, c'est 80 % de différence. Pas 20 % 80. Puis en plus, une voiture, elle roule pas à 120 toute la semaine, là. Tu sais, elle va rouler 2 heures à 120, le reste de la semaine, elle roule à la vitesse du trafic. Mais, parce qu'elle est sur les petites routes ou les routes de la ville. Donc, 80 % d'écart entre une Corolla et un pick-up. Mais presque 200 % d'écart entre une Corolla hybride et un pick-up. Alors, le 20 % pour quelques heures, c'est pas ça qui fait, pour la planète, c'est pas ça qui fait la différence. Par contre, les accidents... avant les accidents, je vais vous parler d'un truc, c'est la taille des véhicules. Je suis tombé sur une patente qui me dit... Ah, il me semble qu'on n'en parle pas souvent de ça. C'est Catherine Morancy, qui est en collaboration avec Équiterre, qui dit que, selon ses modèles, si on roule sur une distance de... Tu prends 3500 véhicules, puis tu les fais parcourir un tronçon de 5 km. Si tu roules toutes des smart, si tous les véhicules étaient des petites voitures, ça prend 3,7 minutes pour parcourir la distance. Si tous les véhicules sont des VUS Ford Expedition, donc même pas le plus gros véhicule, là, ça prend 12,7 minutes. 3 fois et demi plus de temps pour les gros véhicules que pour les petits véhicules. Sais-tu pourquoi?
Non.
À cause du temps de freinage. Parce que comme c'est pas la place qu'il utilise, le véhicule, c'est qu'un véhicule, ça roule, mais des fois, ça freine, même sur l'autoroute, un dépassement, un ci, un ça. Et le temps que ça prend pour freiner fait que ça crée de la congestion juste par la taille des véhicules. Puis l'autre argument, c'est la sécurité. Sur la sécurité, les accidents, ça se fait sur les petites routes, ça se fait en ville. Pas beaucoup d'accidents sur l'autoroute en ligne droite.
Ah, mais ça, c'est ton argument, mon cher Luc, qui déchirait sa chemise cette semaine sur le plan d'Ottawa, sur la réduction des GES.
Ben là,
moi, je me suis dit, il va s'objecter à ça parce que, effectivement, rouler plus vite, même si on le fait en plus petite voiture, il y a quand même un résultat qui veut que c'est plus polluant. On peut pas contester ça.
Oui, mais ça, c'est comme l'argument de la personne qui habite dans une maison avec 6 chambres puis qui dit « Oui, mais je recycle mes cannes de thon. » Mais oui, mais tu vas pas sauver la planète parce que tu recycles tes cannes de thon. Commence par changer ta maudite maison, ta piscine chauffée. Là, t'as peut-être une chance.
Notre collègue de Pierrebourg m'écrit.
Ouais.
Le français.
Ouais, vas-y, Pierre.
Bon, alors, il dit que sur des autoroutes en France, puis là, évidemment, c'est des voies, plusieurs voies, là, ça peut aller jusqu'à 130 km/h. Mais qu'il y a un ajustement en fonction de la météo. Ça, j'ai vu ça en Italie.
Ah, ben.
Si, par exemple, tu as 110, bien là, s'il se met à pleuvoir, là, on te baisse la vitesse maximale. Et même les jours où la pollution est élevée, là aussi, on va baisser Donc, ouais. C'est variable.
Fait c'est pas... dit, on aurait c'est comme deux jours variable. Où tu pourrais rouler à 110.
Une couple d'heures par année que tu pourrais rouler à 110 sur l'autoroute.
Non, mais c'est peut-être un argument, mais au-delà de tout ça, est-ce que les Québécois ont un comportement? Est-ce qu'on a un comportement qui permettrait sur les routes d'augmenter la vitesse à 110 km/h? Et certains vont dire pourquoi pas à 120? En 2018, le Parti québécois avait proposé un 120 km/h sur les autoroutes du Québec, prétextant que on roule déjà de toute façon à 120 km, puis dénonçait l'hypocrisie derrière ce débat-là. Mais Luc, toi qui roules en commune auto, t'es en train de me dire que parce que tu roules en petite voiture, tu pollues moins. Ça,
ouais.
C'est ton argument.
Oui, c'est ça.
Ah bon, d'accord. Vive la cohérence.
En plus, je ne roule pas souvent.
Ben,
en plus, je
ne
roule pas souvent. Je suis toujours en bicycle.
Mais c'est pour ça que ça m'étonne ta position. Parce
non,
que, écoute,
mais
tu
je
roules
sais
à
que,
vélo.
Non, mais regarde, si j'étais parfait, je ne mangerais pas de viande, je ne roulerais pas vite. Mais je ne suis pas parfait, qu'est-ce que tu veux? Puis je ne demande pas. Moi, je ne dis pas aux gens qu'il faut que ce soit parfait. Je dis juste, faites les mêmes choix que moi. Ce n'est pas pareil, ça.
Oui, mais oui, c'est ça, exactement.
Mais il y a autre chose aussi. La sécurité. Il faut parler un petit peu de sécurité.
Oui.
C'est en ville que ça se passe. Puis, des accidents entre véhicules, maintenant, font beaucoup moins de morts à cause de la qualité des véhicules puis aussi les coussins gonflables. Il faut juste retenir une statistique. Elle est facile à retenir, une et une seule statistique. Un véhicule frappe un piéton à 30 km/h, le piéton a une chance sur 10 de mourir. Si un véhicule frappe un piéton en haut de 50 km/h, le piéton a une chance sur 10 de survivre. Hein? C'est facile à se rappeler, hein?
Oui.
C'est en ville que ça se passe. En ville,
ben,
lâcher
je sais
le
pas.
Gaz.
Bilan routier SQ 2021, 245 collisions mortelles. 24,5% étaient de ces 245 décès étaient liés à la conduite imprudente et aux excès de vitesse.
Oh oui.
Alors
vrai.
Que mais tu vois, après routes, l'alcool, puis... les drogues, fatigue, inattention, distraction. Mais quand même, c'est un débat qui est intéressant, mais je ne crois pas qu'on soit prêt pour ça. L'Alberta... En Alberta, je disais ce matin, ils ont révisé, ils voulaient effectivement privilégier certains tronçons à 120. Colombie-Britannique, en fait, ils se sont ravisés sur le 120 km/h. On verra ce que ça donne en Ontario, mais dans le cas de l'Ontario, ils ont mené un projet pilote, ils ont mené un sondage auprès de la population et 80% des citoyens soutenaient l'idée d'augmenter la vitesse sur certains tronçons d'autoroute. Est-ce qu'il y a 80% de Québécois demain matin qui seraient d'accord avec cette idée? Question.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.